France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, grand jour pour les mélomanes et les cinéphiles, puisque j'ai le bonheur d'accueillir Philippe Sard, le maître musicien du cinéma français depuis Claude Sauté et Les Choses de la Vie, La Grande Bouffe de Marco Ferreri, Le Chat de Granny de Fer, en passant par Tavernier, Polanski, Lautner et tant d'autres. Histoire d'un musicien qui a grandi dans la fosse de l'opéra où sa mère était cantatrice, il nous le racontera dans un instant. À midi, votre programme de musique légère, mais d'abord, suivez-moi dans le Paris de Philippe Sard.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien.
On y cause en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien.
Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie.
Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence,
rien ne vaut l'air de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles,
on se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu.
On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays.
La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris.
Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris
restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit.
Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle en 1977 dans Paris jadis. Bonjour Philippe Sard.
Bonjour Benoît.
Vous me faites plaisir, je suis ému en même temps parce que j'avais envie de réécouter cette chanson pour commencer. Elle me rappelle des belles émissions qu'on a faites avec Bertrand Tavernier sur les musiques de ses films. On avait évidemment parlé beaucoup de vous et de cette chanson que vous avez écrite avec Jean-Roger Caussimon.
Exactement. Et c'était une chanson qui était comme un contrepoint, oui, au début du film. Parce que
le film Des Enfants Gâtés.
Hein. Des Enfants Gâtés. Où tout ce Paris n'existe plus, quoi.
Oui, bien sûr, oui. Et alors, avec Caussimon, vous aviez travaillé ensemble?
Non, avec Caussimon, j'ai fait les chansons du Jugé Assassin.
Déjà, auparavant,
oui. La Commune est en lutte et Bouvier l'éventreur.
Mais vous étiez vu, je veux dire,
oui.
Avec le texte, le piano, etc.
J'ai travaillé sur les textes.
Oui.
Parce que les textes sont tellement extraordinaires. Oui. Ils appellent la musique. Il y a des textes qui n'appellent pas du tout la musique.
Oui.
Ces textes sont très émouvants et très donnent envie d'écrire de la musique.
Et la séance d'enregistrement, vous vous en souvenez aussi?
Ah bah oui, c'est très drôle. très drôle.
Avec Marielle et Rochefort.
On a enregistré le playback, l'orchestre, et puis après, on a enregistré les deux en même temps. On a essayé un et après l'autre, et ça fonctionnait pas bien.
Il fallait l'interaction.
Ouais, ouais. J'ai dit à Bertrand, écoute, Bertrand, on se lance et on fait les deux. Et moi, Marielle, j'avais fait quand même un nombre de films énorme.
Avec lui, oui.
Rochefort aussi. Donc, j'étais pas gêné.
Oui, bien sûr. Ouais.
De toute façon, vous savez, je crois que j'ai beaucoup plus écrit pour les acteurs que pour les chanteurs.
Bien sûr, oui.
Vous voyez donc, je me sens mieux avec eux. C'est plus mon monde.
Quant à Bertrand Tavernier, il faut le dire aussi, hein, vous l'avez connu très jeune, en fait.
Ah bah, Bertrand Tavernier, j'ai fait les choses de la vie, j'avais 19 ans.
En 70.
En 70. Et Bertrand est sauté, devait sortir le film. Mais il avait peur de le sortir. Donc, il a montré à pratiquement tout Paris. Parce qu'il avait peur, tout simplement. Et puis, un jour, il y a un type, il me dit, écoute, personne ne te connaît, évidemment, c'est mon premier film, regarde le grand mec, là, suis-le. Suis-le, essaie de savoir qu'est-ce qu'il en pense.
Ah oui.
Et je suis le grand mec, et le grand mec, c'était donc Bertrand. Je lui dis, je vais vous déranger, mais je vous ai vu sortir de... J'ai joué la comédie, évidemment. Je vous ai vu sortir du film et qu'est-ce que vous en pensez Formidable, formidable.
Ah, vous l'imitez bien, oui.
Voilà. Et après, on est devenus très, très amis. Moi, j'ai continué jusqu'à l'horloger de Saint-Paul à le booster pour qu'il s'accroche.
Et encore dans ses derniers films, peu avant sa disparition.
Jusqu'à Quai d'Orsay, j'ai fait jusqu'à... Voilà. J'ai fait pratiquement tous ses plus beaux films.
On pense à lui, en tout cas, forcément, aujourd'hui, un peu Philippe Sard et beaucoup ce cher Bertrand Tavernier qui aimait tant le cinéma, la question de la musique au cinéma, dont on va forcément parler ensemble maintenant, mais aussi la musique tout simplement dans votre vie et jusque dans votre petite enfance. Avec, tiens, par exemple, je crois que vous aimez bien cette chanson.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-don. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè. La vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Boum, boum, ça fait toujours boum, 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 brrr,
Philippe Sard, vous êtes plutôt de la génération des yéyés, mais vous adorez les chansons d'avant-guerre.
Ah bah, je vais vous dire, j'avais 3 ans, j'avais une pile de 78 tours et un phono, vous savez, les phonos Pathé Marconi à manivelle et à aiguille qu'on change.
Ouais.
Et il y avait un truc assez spécial, c'est que il y avait quelques disques que je me passais sans arrêt.
Ouais.
Mais on pouvait pas lire ce qu'il y avait écrit sur le disque, puisqu'ils avaient tous la même étiquette. Donc, mes parents me disaient, mais boum, hop, je sortais, et boum, une étiquette rouge, je me rappelle.
Ouais.
Le robinet qui fait loulou,
ouais.
Une étiquette noire. Et finalement, elle m'a montré un médecin des enfants, vous voyez, pour savoir si j'étais normal. Et c'est assez étonnant, mais enfin... Il semble totalement normal.
Alors, il faut dire, hein, Philippe Sard, que votre mère, c'est quand même quelqu'un aussi d'exceptionnel, qui fait que vous avez grandi vraiment dans le monde de la musique. Vous avez été même un petit enfant, on peut dire, dans la fosse de l'Opéra de Paris,
ah, oui.
Où votre mère était cantatrice. Hein.
Et
votre mère, donc, André Gabriel.
Voilà, et si vous voulez, c'est pour ça que la musique, pour moi, c'était normal. Je devais faire de la musique. C'était inné. Et puis, ma passion, c'était le cinéma. Mais dès quand je voyais les opéras
voilà.
que ma mère chantait, et que j'allais à l'opéra, et je voyais les mises en scène de Maurice Lehmann...
Oui, qui était le grand metteur en scène et directeur de l'époque. Oui.
Et directeur de l'époque, avec des merveilleux décors de Georges Bakevitch...
Ouais.
Écoutez, c'était extraordinaire.
Mais vous vous intéressiez déjà à la façon dont l'orchestre commentait d'une certaine voilà. façon ce qui se passait sur la
il
scène.
Il commentait, il ne jouait pas, il ne doublait pas ce qu'il y avait, les airs. Et ça m'a donné une direction. Je me suis dit, tiens, en fait, l'orchestre joue autre chose. Ouais. Quelque chose de parallèle et quelque chose qui va donner un plus ou un moins par rapport aux airs.
Et donc, la musique s'est imposée d'une façon évidente, avec donc cette mère qui était... elle était heureuse dans sa vie de cantatrice,
André Gabriel ? Je ouais. pense, elle était... Elle est rentrée très jeune au conservatoire,
ouais.
et puis elle s'est arrêtée assez vite, assez tôt.
Ouais.
Et je crois qu'elle s'est arrêtée pour des raisons très simples, c'est que, vous savez, quand une chanteuse, et surtout un mezzo-soprane, ne peut plus lancer le contrut...
Ouais.
absolument droit, elles n'ont plus envie.
Elle n'avait plus envie, mais donc elle a continué évidemment toute sa vie à écouter de la musique,
oui,
à en faire,
je pense.
Elle a pratiqué aussi.
Moi, quand ma mère est rentrée à l'opéra, enfin est sortie de l'opéra, moi je suis rentré par hasard dans le cinéma.
Voilà. Alors on va retrouver André Gabriel, donc votre mère, quelques minutes... dans un document filmé, j'avais eu le plaisir de le recevoir ici il y a très longtemps, Henri Spade,
incroyable.
Qui était le grand réalisateur musical de la télévision de l'époque. Et c'est votre mère donc, qui, dans ce film, qu'on trouve d'ailleurs, je crois, sur le site de l'INA, qui chante donc le rôle de Carmen.
Carmen.
Oh!
André Gabriel dans le rôle de Carmen, un film de 1962 pour la télévision. Et André Gabriel, donc Philippe Sard, c'est votre mère avec laquelle vous êtes entré très très jeune dans les coulisses de l'Opéra Garnier.
Oui.
Et grâce à laquelle, alors vous avez fréquenté, si j'ose dire, très jeune aussi, un grand musicien qui était peut-être directeur de l'Opéra à l'époque, qui était Georges Auric.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait... Après Noël Gallon, qui a été mon professeur...
Au conservatoire, vous suiviez des cours avec Noël Gallon, grand professeur.
Grand professeur, professeur de Henri Dutilleux. Je ne sais pas qui n'est pas passé dans les mains de
C'est
Noël
vrai,
Gallon.
Toute une génération de musiciens ont été formés.
Et j'ai eu la chance, et en même temps la tristesse, d'avoir... j'ai été son dernier élève, quoi.
Ouais.
Et après, il a arrêté, il était fatigué. Noël était fatigué. Et la seule chose qu'il a regretté, il m'a toujours dit, il me dit, voyez, vous avez envie de faire de la musique de cinéma. Ben moi, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et j'y suis jamais arrivé. Et je lui ai dit, mais vous savez pourquoi, Noël, vous n'y êtes pas arrivé? Je vais vous le dire, moi. Parce que après les 8 premières mesures qui sont très belles, vous allez dans tous les sens. Au lieu de continuer... vous savez, à l'époque, j'avais aucun, même aujourd'hui, je n'ai aucun problème, même devant Noël Gallon. Bah, je lui dis ce que je pensais.
Vous avez toujours fait avec les réalisateurs, d'ailleurs. Vous avez toujours dit votre avis très, très naturellement
très
sur leur film, sur leur montage.
Parce que c'était pas contre eux, c'était pour eux.
Parce que vous aviez le cinéma dans le sang.
Voilà.
Mais, alors, Georges Auric, lui.
Et évidemment, ce qui était extraordinaire, c'était mes après-midi à l'opéra. Où je venais jouer certains morceaux à Georges Auric, qui est devenu mon parrain, quoi, et qui était le directeur de l'opéra.
Et lui, quoi, alors la musique de film, pour le coup, il connaissait.
Ah bah, lui, il connaissait, et je me rappelle que il s'engueulait avec son orchestrateur Jacques Pétain, qui venait dans son bureau et ils hurlaient. Et Auric me disait, mais écoutez, ça vous dérange ces hurlements, mon petit Philippe? Je lui dis non, pas du tout. Ça m'apprend, c'est intéressant.
Mais c'est quand même curieux, quand on ne connaît pas le métier, comme ce qui est mon cas, que de penser qu'un compositeur, disons, tout à fait complet, comme Georges Auric, avait quand même un orchestrateur. Il n'orchestrait pas lui-même.
Ah oui, non, il n'orchestrait pas lui-même parce que je pense qu'il avait... Il a eu un truc que j'ai compris de manière très évidente. C'est-à-dire qu'il lui fallait un regard. Quel est le type qui va être près de lui sans vouloir autre chose que de lui donner un regard, un avis. Et il dirigeait l'orchestre, Jacques Pétain. Donc, il lui donnait un regard, il le boostait quelque part. Quoi.
Quelqu'un qui a été important aussi à vos débuts, je dis ça parce qu'on va écouter tout de suite Régine, ça a été Eddie Marnay.
Oui, Eddie Marnay... il a tout fait pour que je rentre dans ce métier, quoi.
Lui, c'était, on peut dire, le grand parolier,
des
chansons de l'époque, hein.
Et c'est vrai que il a essayé. Et un jour, j'ai ma grande rencontre dans la chanson, ça a été Régine.
Voilà, justement.
Et
cette chanson, La boule au plafond, un tango que vous avez écrit avec Eddie Marnay.
Non, avec Jacques Chomel. C'est-à-dire que je vais vous raconter une histoire démente que personne ne connaît, d'ailleurs. Eddie avait adoré la musique et il écrit des paroles. C'était style « Passe-moi l'aspirateur ». Alors, on va chez Régine, moi je me mets au piano et Eddie commence à lui chanter la chanson avec les paroles « Moi j'ai passé l'aspirateur ». Et Régine lui rétorque « Est-ce que tu crois que Régine passe l'aspirateur ?» Elle a dit, c'est vraiment dommage, parce que la musique est formidable, mais je la garde dans un coin. Et moi, j'étais très, très, très déçu. Et j'ai rencontré un type qui s'appelait Jacques Chomel, et qui adorait le tango, qui était un parolier très connu de la variété française de l'époque. Et il a trouvé, j'ai la boule au plafond. Et on est retourné voir Régine. Elle a dit, mais on fait un tube avec ça.
le rouge a inondé la piste étroite et les murs fatigués de cette boîte. Est-ce la boule au plafond ou le whisky qui me tourne la tête? Papillon de lumière sur ce tango, je regarde la sphère et ses carreaux. Le folklore argentin m'a emporté loin de cette banquette. J'ai la boule au plafond qui tourne, qui riboule, tourne boule. Ce tango illusion me saoule. J'ai la boule au plafond. Du haut de mon plafond, je vois les gens conduits par des violons, tambour battant. C'est Buenos Aires et c'est Gardel quand les bandeaux s'affolent. Soudain un Hidalgo penché sur moi m'invite à ce tango et me voilà à peine redescendu qu'entre ses bras à nouveau je m'envole. J'ai la boule au plafond qui tourne, qui riboule, tourne boule. Ce tango illusion me saoule. J'ai la boule au plafond. Du haut de mon plafond, je nous observe. Ça joue contre mon front. Plus de réserve, alors tout devient fou. Je ne sais plus pourquoi le décor change. Le bal a disparu et je ne vois plus rien que nos corps nus au creux des draps. Mais avant de comprendre le pourquoi, je suis déjà aux anges. J'ai la boule au plafond qui tourne, qui riboule, tourne boule. Ce tango illusion me saoule. J'ai la boule au plafond.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
J'ai la boule au plafond, c'était Régine sur la musique de mon invité Philippe Sard, avec des arrangements d'ailleurs de notre cher Alain Goraguer.
Voilà. Je vais vous raconter une histoire très, très étrange qui pourra peut-être pas passer dans cette émission parce que c'est long, mais je vais vous la faire courte. Dans le même disque, c'était un super 45 tours. Ouais. Il y avait une autre chanson écrite par Datin et Dabadie.
Et Jean-Loup Dabadie.
Et c'était l'histoire des choses de la vie.
Ah oui. Qui arrive juste après, hein, dans votre vie, justement.
Exactement. Hein. Et Régine dit, on va mettre la boule au plafond en second, parce que l'accident, ah oui. C'est le nom de la chanson.
Vraiment, l'accident, comme dans le film, quoi. Oui.
Exactement. Ah oui. Et l'accident ne marchera pas. Donc, donnons-lui toutes les chances qu'elle marche, et on va la mettre en premier, et on mettra la boule au plafond en second, mais je ne me fais aucune illusion, la boule au plafond va bouffer l'accident.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le disque.
Je n'ai raconté à personne ça. C'est la première fois que je la raconte, mais elle me vient par l'association.
C'est quand même juste avant la rencontre de Claude Sauté.
Exactement.
Il faut préciser qu'avant. Donc, Les Choses de la Vie, qui sort en 70, qui va vraiment lancer votre carrière de musicien de cinéma. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez aussi vous-même fait du cinéma. Vous avez votre cœur à balancer un peu entre la musique et le cinéma. Hein.
Disons que j'aimais beaucoup le cinéma, donc je me suis dit, la musique étant une chose acquise, enfin acquise, rien à dire acquis, mais bon, et si j'essayais de faire du cinéma? Je me suis dit, essayons. Et j'ai fait un court-métrage. Deux courts-métrages même. Et je me suis dit, si les gens sortent et disent que la musique est belle...
Voilà, je ferai de la musique.
Je ferai de la musique. Et si les gens disent, ah, quel beau film, ben, peut-être que je continuerai à faire du cinéma. Et en fait, tout le monde est sorti en disant que la musique est belle.
Qu'est-ce qu'elle est bien, cette musique. Et donc, vous êtes devenu musicien. Mais ça explique cette relation que vous avez eue tout de suite avec Claude Sauté, alors que vous étiez, on peut dire, un débutant, un inconnu. Malgré tout, toujours, vous avez eu sur les films des cinéastes avec qui vous travaillez, le regard aussi d'un
passionné de cinéma, d'un cinéaste qui juge, qui commente, qui
se bat, des fois, qui se bat la plupart du temps pour imposer le.
Imposer un montage, quelquefois, au réalisateur.
Qui donnerait un plus. Parce que je me disais, on est tous embarqués dans un bateau qui est le film. Et il faut que chacun dise ce qu'il pense et ce qu'il sait.
Claude Sauté, qui était déjà plus confirmé quand même, il vous regardait comment, le petit musicien qui débarque et qui commence à lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Je vais vous dire, la vérité, c'est que Claude a tout de suite vu que ce que je lui disais n'était pas con.
Idiot.
Et donc, je pense que ce qu'il n'aimait pas, c'est les choses bêtes, sans intérêt. Parce que quand vous dites « cette scène ne va pas », mais que vous ne donnez pas derrière la raison de pourquoi elle ne va pas, vous ne jouez pas le jeu. Ouais. Je disais toujours « ça ne va pas, mais voilà comment on peut le faire ». Donc, dès qu'il a vu ça, Claude m'a fait confiance sur tous ses films et tous les metteurs en scène derrière.
Et la chanson d'Hélène, qu'est-ce qu'il en pensait ?
Il était là, on lui a fait avec Dabadie un coup dans le dos, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'en fait, il ne voulait pas de chanson, évidemment.
C'est ça.
Et j'ai appelé Jean-Loup, je lui ai dit, écoute, quand même, ça serait dommage de ne pas faire une chanson de ce thème. Mon coco, bien sûr, mais tu sais que Claude
va mal le
décessé. Je lui dis, écoute, on l'a fait, on verra bien. Et moi, je pensais quelque part qu'il manquait un côté, comment lancer le film à la radio, justement. Comment en parler à la radio. Et je me suis dit qu'une chanson, alors que je ne suis pas spécialiste, j'ai pas envie vraiment de faire une chanson dans un film. Au contraire, j'ai toujours évité de faire ça. À part dans les films de Tavernier où ils étaient en situation. Je me suis dit, une chanson peut lancer un film.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre.
Romy Schneider et Michel Piccoli dans la chanson d'Hélène, Les choses de la vie, Claude Sauté, 1970. Chanson, vous nous rappelez, Philippe Sartre, qui n'est pas dans le film, hein, mais qui est en supplément dans l'édition discographique, évidemment, du film.
Vous savez qu'on a une botte secrète.
Oui, voilà. Et ça a marché, d'ailleurs.
Et ça a marché.
Vous disiez juste avant, vous évitiez de faire des chansons de cinéma. On en a quand même déjà entendu deux, hein, Paris jadis, oui. La chanson d'Hélène. Je pourrais citer la chanson du film Le Chat, aussi chantée par Jean Sablon.
Donc,
vous avez fait quelques chansons de cinéma, ce qui était presque une obligation dans les films d'avant-guerre et qui, effectivement, dans votre génération, c'est quelque chose qui avait un peu disparu. Hein,
ça a un petit peu disparu et ça faisait même ringard. Vous voyez ce que je veux dire. Alors j'essayais ou que les chansons appartiennent à la dramaturgie du film, comme ce que j'ai fait avec Tavernier, ou bien qu'elles soient la botte secrète, comme dans Les choses de la vie,
pour accompagner le film et le mettre en valeur.
Dans Le chat, si c'est dans le film,
ça avait un sens dans le scénario.
Et c'était la jeunesse de Simone Signoret et Jean Gabin. Mais c'est vrai que pour moi, une chanson dans un film, c'est un peu...
Ouais, c'est un peu trop.
C'est un peu trop.
En tout cas, vous vous définissez parfois comme un scénariste musical. Hein, c'est une façon de montrer votre travail. Vous avez dit aussi, je m'épanouis au miroir des autres. C'est-à-dire que vraiment, vous essayez en quelque sorte, c'est ce qui a fait votre succès, votre immense réputation dans ce métier, c'est vous essayez de trouver la musique du cinéaste, en fait.
Et oui. Sinon...
Enfin, Vladimir Kosma, à ce même micro, m'a dit le contraire. Il m'a dit, on peut mettre n'importe quelle musique sur n'importe quel film, ça change rien.
Non, il a le droit de penser ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui est plus beau dans la vie que de raconter une histoire avec la musique que le metteur en scène n'a pas pu ou voulu raconter et de la lui prolonger avec la musique.
C'est pas une paraphrase, c'est quelque chose en plus qui...
Quelque chose en plus, c'est pas de la peinturlure.
Ouais.
Parce que de la peinturlure, ça va pas. Ça me semble complètement inutile. Et je pense que c'est très très émouvant. Claude Sauté d'ailleurs avait une phrase formidable. Par exemple, à la fin de Vincent, François, Paul et les autres, il me dit, là je crois à mon coco, que avec la musique, le ballon s'envole. Il avait conscience que la musique avait apporté quelque chose de plus que lui n'avait pas pu ou voulu, tout simplement, et je pense c'est surtout voulu, raconter à l'intérieur du scénario.
Et en même temps, vous avez dit que Sauté, avec qui vous avez fait tant de films, contrairement à beaucoup d'autres cinéastes qui ont été vos proches, lui, c'est quelqu'un quand même qui s'intéresse vraiment à la musique. Hein,
ah oui.
Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'était son cas, en tout cas.
C'était quelqu'un de... Autant je m'intéressais au scénario avant, et j'étais très dur sur le scénario, mais je savais que j'allais recevoir l'appareil sur la musique.
Sur la musique, voilà.
Vous voyez, c'était un combat égal. C'est-à-dire, le combat, je lui disais, non, Claude, c'est pas bien, cette scène n'est pas bien, non, ça peut être mieux, mais je savais que quelques mois après, j'allais recevoir les mêmes coups de bâton pour la musique.
Tiens, justement, Vincent, François, Paul et les autres, ça vous conviendrait
Ah bah oui, c'est un superbe film de Claude.
Thank you.
Belle musique, hein, vraiment. Merci, Philippe Sard.
Moi qui m'émeut.
Oui.
Oui. Parce que c'est une. C'est tellement Claude.
Oui.
C'est un portrait de Claude.
Philippe Sard, quand on voit le nombre de films depuis 1970 dont vous avez écrit la musique, on se dit ce type, il doit travailler tout le temps, jour et nuit.
Oui, c'est ce que j'ai fait.
C'est vrai, c'est la vérité.
Oui.
Vous vous levez très tôt.
Oui. Alors, les horaires. J'ai pas d'horaire précis, mais j'ai passé ma vie à ça, quoi.
À travailler, tout le temps travailler. Et travailler principalement chez vous, dans votre studio de musique. Vous passez pas votre temps sur les tournages ou.
Non, parce que plus ça allait, moins je voulais voir d'images.
Ah oui.
Parce que comme les images, on les prévoyait avec le metteur en scène avant,
ouais.
Je n'avais pas tellement envie de les voir pour que la musique que j'allais faire, soit un contrepoint, un apport supplémentaire. Alors des fois, je demandais, par exemple, sur un film de Romy, je disais, montre-moi un plan.
Un plan, ah oui.
Et je sentais toujours immédiatement le climat. Ouais. J'avais pas besoin de voir le film.
Et les séances d'enregistrement, vous les avez suivies avec attention,
oui.
Par contre.
Les séances d'enregistrement, c'était l'enfer.
Avec des très bons musiciens, comme avec en général, oui.
Les meilleurs.
Ouais, les meilleurs.
Je me suis battu toute ma vie pour avoir les meilleurs, ouais. Je vous l'assure. C'était bon. Oui, parce que, vous savez, comme je suis né pratiquement dans une fosse, une fosse d'opéra.
Oui. Avec les meilleurs musiciens de Paris, on disait à l'époque, d'ailleurs.
Exactement. Avec l'orchestre de l'opéra, Paris qui était formidable. J'ai voulu toute ma vie avoir les meilleurs musiciens et quand j'utilisais des jazzmen, tous les disques de jazz que j'écoutais, je me suis dit un jour si je fais de la musique, j'aimerais les avoir tous.
Vous en avez eu un certain nombre.
J'en ai eu un certain nombre.
On va y revenir à propos de Stan Getz, mais je reviens encore à la musique de film. On parlait juste avant des chansons de cinéma, d'avant-guerre. Par contre, j'ai toujours l'impression, en lisant un peu vos interviews, etc., que vous adorez les compositeurs de musique de film d'avant-guerre, justement, les Vamparis, les Jaubert, les Chloé Rex, c'est un peu vos références.
Mais ce sont mes références.
Ouais.
Et
Parce qu'il y avait
un non-dit,
ouais.
Chez ces gens-là. Ils avaient, par exemple, dans Le Jour se lève, la musique de Jaubert,
ouais.
C'est pas ce que raconte le film.
Non, c'est vrai.
C'est ce que raconte peut-être le scénariste ou Carnet, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est pas le film. C'est au-delà du film.
Voilà.
Ouais. Et je me suis toujours dit, voilà, ces gens-là ont compris.
Voilà, mais ça fait plaisir, en tout cas, que vous les mettiez volontiers à l'honneur.
Ah, oui.
Et alors, on va maintenant peut-être passer à un autre cinéaste avec qui vous avez beaucoup travaillé, que moi j'adore, j'avoue, je me fais plaisir aussi, c'est Georges Lautner.
Ah bah ouais.
Il est genre
adorable.
Ouais,
l'homme le plus gentil de la Terre.
C'est devenu, sans doute sans l'avoir prévu, une idole.
Une idole.
Grâce au tonton flingueur.
Mais oui, une idole, mais il le mérite.
Oui, oui.
C'était l'homme le plus...
Il avait l'impression de faire du cinéma un peu de deuxième catégorie,
oui.
Où il s'en fichait, il en riait.
Oui, vous savez, il y a toujours une histoire que je raconte de temps en temps. Quand Lautner me raccompagnait en bas de chez moi la veille du tournage, il me dit... Mon coco, parce qu'ils m'appellent tous mon coco, je sais pas pourquoi. J'ai quand même un problème. Je dis, un problème. Oui, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et le doute permanent de Lautner, c'était « Mais tu m'abandonnes pas, hein ?» Je lui dis « Pourquoi veux-tu que je t'abandonne ? Je t'ai jamais abandonné. » »« Mais non, tu rigoles. Et tu vas t'en sortir, comme d'habitude. » Et puis on trouvera, même si tu t'en sors pas, on trouvera le moyen que tu t'en sortes.
Mais quel talent merveilleux, de grand divertisseur dans le meilleur sens du terme.
Oui, et puis un homme totalement d'une humanité extraordinaire.
Et alors, on va écouter une musique que je trouve formidable, c'est la musique de Flic ou Voyou.
Ah oui.
Parce que c'est à moitié baroque, à moitié jazz, on peut dire un peu. Hein. Vous avez mélangé deux couleurs.
Ce que voulait être le scénario, mais comme on ne pouvait pas le dire dans le scénario, il fallait que la musique le dise.
Georges Lautner, 1979, Flic ou Voyou, avec la musique de mon invité Philippe Sard, vraiment très 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 joli thème. Et alors, bah, vous disiez juste avant, tiens, je rêvais d'avoir les meilleurs jazzmen. Là, la trompette, c'était rien moins que
Chet Baker.
Ah oui, voilà.
Et à la basse, Ron Carter, et à la batterie, Billy Cobham. Enfin bon.
Ah oui, Billy Cobham aussi. Oui, oui, d'accord.
Non, mais j'avais. Quand je vous savez, des fois vous jurez un truc quand vous êtes gosse ou quand vous, c'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai réussi.
Ah bah oui.
Mais il a fallu que je me batte. Hein.
Mais le jazz, vous qui êtes né vraiment dans un milieu de musique classique avec votre mère cantatrice, avec le conservatoire, il est arrivé vite dans votre vie. Il a pris beaucoup de place très rapidement.
De place parce que je cherchais à casser ce côté classique. Vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
J'avais peur d'être enfermé dans une cellule classique, quoi. Et c'est pour ça que, quand j'allais voir Noël Gallon, je lui faisais part de tout ça, de mes envies. Et il me dit, mais laissez-vous aller, mais vous vous en foutez. Et c'est, vous savez, on dit les professeurs, mais quand vous avez affaire à des gens aussi extraordinaires que Noël Gallon ou, d'un autre côté, Georges Auric, il vous dit, mais fais ce que t'as envie.
Mais c'est un petit peu plus difficile, on va dire, peut-être, quand on fait une musique de film qui doit être très, très cadrée, de diriger un musicien de jazz que de diriger un orchestre avec des arrangements qui sont écrits à la seconde près, etc.
Alors, je sais que c'est une question de discuter.
Ouais.
Il faut parler avec le musicien, et lui expliquer le pourquoi de cette musique. Et là, il va rentrer dans le feeling, il va vous apporter toute son émotion. Et ça, c'est une autre genre de direction d'orchestre.
Alors, il y a quelqu'un d'autre, justement, dans ce monde du jazz, qui a compté aussi dans votre vie et dans votre travail, ça a été Stan Getz.
Stan Getz. Lautner m'a dit ce qui serait bien, tu vois, dans Mort d'un pourri, ça serait d'avoir un musicien, un saxophone. Ça serait génial d'avoir un saxophone comme Stan Getz.
Genre Stan Getz, quoi.
Genre Stan Getz. Mais je lui ai dit, mais pourquoi genre Stan Getz? On va avoir Stan Getz. Et en plus, Stan Getz, Alain Delon, a les mêmes yeux que Stan Getz.
Oh là.
Donc, ça va fonctionner à fond.
Ah bon, c'est drôle comme idée, oui, c'est bien.
Et ça m'est sorti, mais naturellement. Oui. Je me suis dit, ils ont les deux un regard d'acier. Et c'est vrai, Getz a un regard d'acier et Delon a un regard d'acier.
Alors comment finalement vous l'avez contacté, rencontré?
J'ai demandé à mon contracteur de l'appeler.
Tout simplement.
Le type a dit, bon bah ouais, bah, je viens, on verra bien. Il vient et je me mets au piano et on joue le début de Mort d'un pourri, lui au sax, et effectivement, quand on voit le regard d'Alain Delon avec le son de Stan Getz, ça marche bien, je peux vous le dire.
Vous vous mettez souvent vous-même au piano dans les enregistrements de vos musiques de films?
Non, pas dans les enregistrements, j'ai trop le trac.
Ah bon?
Ah oui. Ah oui. Au début, oui. Au début, et puis après, je me suis dit, non, t'as trop de choses à t'occuper, trop de choses, tu vois. J'y perdrai la journée, quoi.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je n'ai qu'une journée pour faire le truc. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un morceau. Ouais. Donc je me suis calmé un peu.
Stan Getz dans Mort d'un pourri avec Philippe Sard. Donc c'est pas vous au piano, même si vous lui aviez montré au départ, là c'est pas
oui,
vous.
Non, hein. C'est pas moi, c'était son pianiste. Oui. Et Getz, c'est tellement le regard d'Alain.
Il regarde Alain Delon dans ce même film, Mordain pourri. Je disais tout à l'heure, Philippe Sartre, que j'étais impressionné par le nombre de films que vous avez, si j'ose dire, mis en musique depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, quand on regarde bien, en fait, ce sont des histoires personnelles très continues avec un certain nombre de cinéastes.
C'est
des aventures de longue durée, on peut dire. On a évoqué Sauté, on a parlé de Tavernier, on a parlé de Lautner, mais on aurait pu aussi, évidemment, citer Granier de Fer, Téchiné, qui ont été des compagnons.
Des compagnons de route.
Pas pour la vie, mais en tout cas pour de longues périodes.
Pour de très très longues périodes, c'est vrai. Et ça m'émeut.
Oui, surtout beaucoup d'entre eux, évidemment, ne sont plus là aujourd'hui.
Ils sont plus là. C'est terrible.
Oui. Mais en tout cas, voilà une discographie étonnante. J'aurais pu ajouter Roman Polanski aussi, avec qui vous avez fait beaucoup de films.
Et je pense que, vous savez, quand vous. Ça veut dire que vous avez réussi à satisfaire le metteur en scène qui va travailler sur 15, 16, 17 films avec vous.
Même quand vous lui dites, comme à Tavernier, que son montage ne va pas du tout, qu'il faut
ça
tout faire.
Hein. Voilà, il faut, dans coup de torchon, je lui ai dit, tu oublies la fin, c'est à foutre à la poubelle. Mais on va la faire autrement avec la musique et puis tu remettras des images du film et tu verras, ça fonctionnera encore mieux.
Alors Philippe Sartre, on a parlé surtout là des années 70, la première grande décennie de votre œuvre de compositeur de cinéma. Il va falloir que vous reveniez parce que on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres à étudier. Mais j'avais envie, pour terminer, de parler un petit peu de Marco Ferreri et de La Grande Bouffe, film culte s'il en est, qui a été dans vos tout débuts d'ailleurs, là encore.
Absolument, oui.
Qui a vraiment aider Ferreri dans le tournage même du film, je crois.
Oui,
hein,
puisque la musique a été écrite avant.
Voilà, c'est ça, oui.
Et donc, il se la passait sans arrêt. Et tout le monde, finalement, tous les acteurs du film, finalement, la jouent. Soit la chante, soit la joue au piano, comme Piccoli.
Ah, oui.
Soit... Et ça devient... C'est un thème d'une petite rumba.
Oui, ça fait très d'ailleurs, au fond, comédie italienne. Vous
exactement.
Savez, cette espèce de côté un peu nonchalant, mélancolique, comme
exactement.
Ça.
Exactement. Et puis, finalement, cette petite rumba devient le thème de la mort.
Voilà, parce qu'en fait, c'est une histoire atroce, mais il y a toujours cette légèreté qu'apporte votre, voilà. votre
exactement.
Musique, avec c'est des arrangements instrumentaux très, 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 très bien faits. Hein, c'est très, que vous aviez utilisé.
J'avais des musiciens formidables aussi.
Ouais.
Vous savez, un bon arrangement n'est bien joué que si vous avez des bons musiciens.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est pas que des notes. Hein.
Oui. Et alors souvent, d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que parfois on a besoin du regard, par exemple, d'un orchestrateur qui vient travailler dans un deuxième temps avec vous. Bien souvent, vous avez eu au départ quand même l'idée de la couleur.
Ah bah,
et l'orchestrateur, il met en œuvre les couleurs que vous avez déterminées.
Exactement, hein, oui.
Voilà.
L'orchestrateur arrive comme un quelqu'un qui dit bah je pense que ça c'est bien là vous pourriez peut-être faire ça ou ça et vous réfléchissez, des fois il a raison, des fois il a tort, mais au moins vous avez une deuxième personne avec vous, quoi.
Ferreri, il était aussi loufoque que ses films.
Ah, Ferreri était complètement fou, complètement dément. Écoutez, quand on fait le, vous parliez tout à l'heure du
Touche pas à la femme blanche, un des films cultes, c'est un western qui est tourné dans le trou des Halles à la fin des années 70, en plein Paris.
Imaginez un type qui a une idée pareille,
oui.
Il faut qu'il soit vraiment assez incroyable. Et La Grande Bouffe est un des films les plus importants, je pense, du cinéma.
Du cinéma, oui, certainement.
Tout court. Je veux dire, il permet de rentrer dans un film loufoque, mais en même temps, a priori loufoque. Mais en fait, c'est un vrai film sur la mort.
Vous n'avez jamais, Philippe Sartre, contrairement à d'autres musiciens, pensé à tirer des grandes suites symphoniques de vos musiques de film?
Non, je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'en fait, j'écris beaucoup de musique dans un film, et on pourrait la jouer seule.
Ouais.
Et puisqu'elle ne peinturlure pas le film, donc elle a une valeur de suite symphonique.
Voilà.
Des fois baroque, pas de manière inattendue, j'ai envie de le dire, mais donc refaire deux fois la même chose, c'est inutile.
Et par ailleurs, Philippe Sard, est-ce que vous prenez un peu le temps de préparer les rééditions en disque, notamment de toutes ces musiques de films merveilleuses que nous aimons et que nous avons envie d'entendre?
Je pense que là, je prépare une espèce de coffret où il y aura 6 albums.
6 CD.
6 CD, une heure. Donc, ça fera 100 films.
Ah oui!
Sans film, ça a été difficile parce que j'en ai fait 300.
Oui, donc, fallait choisir. Mais c'est vous qui avez choisi, donc.
Ah oui,
voilà.
J'ai choisi.
C'est le choix de Philippe Sard sur lui-même.
Oui. Sur moi-même, en essayant de faire connaître les plus connus et les moins connus.
Les moins connus. Et voilà, c'est un coffret de 6 CD qui va paraître, je crois, à la fin du mois de janvier. Hein. On le redira à l'antenne.
Vous le saurez. On espère le plus tôt possible.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Sard. Et puis, vous savez que vous êtes ici le bienvenu.
Vous êtes gentil, Benoît.
À bientôt.
À bientôt.
Mélange de marimba, de saxophone et de contrebasse dans cette musique de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, une des 300 musiques de film de celui qui était mon invité ce matin, Philippe Sard. Et donc, comme il nous l'a annoncé, je vous signale que la première anthologie des musiques de film de Philippe Sard, 100 films en 6 CD, eh bien, paraîtra dans quelques mois. Ce sera au mois de janvier chez BMG et ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de poursuivre avec Philippe Sard ce voyage puisque nous n'avons envisager aujourd'hui qu'une petite partie de cette œuvre immense qui est la sienne et que j'étais content de pouvoir vous faire réentendre.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et sur France Musique, il est midi, c'est l'heure de mon petit programme personnel de musique légère. « Et ce matin, eh bien, je vous propose un petit voyage musical joyeux dans les années 30. La divine légèreté de l'orchestre de Duke Ellington ici dans Alabama Home en 1937. Oui, c'est vrai parce que en général, on associe plutôt les années 30 à quelque chose de sombre, à la montée des périls, à la crise économique. Mais par exemple, ce merveilleux orchestre de Duke, après les chefs-d'œuvre poétiques Jungle, devient ce grand orchestre swing très radieux, au moins jusqu'à la guerre et encore au-delà. Et aussi en France, dans les années 30, il y aura beaucoup de musique très heureuse, très lumineuse et un peu partout dans le monde. C'est pour ça que je voudrais en parler un petit peu ce matin, avec aussi, toujours du côté de Broadway, George Gershwin, qui écrit une de ses dernières comédies musicales avant l'opéra Porgy and Bess. Ça s'appelle Pardon My English et c'est de 1933.
Cheer for Bowser, the man of the hour. Give a cheer for Bowser.
Un extrait de Pardon My English, l'avant-dernière des grandes comédies musicales de George Ira Gershwin. La suivante, ce sera presque la même année, Let 'Em Eat Cake. On est en 1933. Et voilà une œuvre à redécouvrir, d'autant plus qu'il existe un très bel enregistrement chez Nonesuch qu'on vient d'entendre sous la direction d'Eric Stern. Voilà, oui, dans un tout autre genre, celui de la musique dite récréative, un bal masqué chez les oies. C'était l'orchestre d'Oscar Jost, toujours en 1932, dans un des coffrets réalisés par notre regretté Pierre-Marcel Ander. Mais je vous le disais aussi, eh bien, du côté de la France, les années 30 sont un âge d'or pour l'opérette, avec les Palétuviers, les Trois Valses, et beaucoup d'autres petits chefs-d'œuvre, et puis aussi une opérette disquée, c'est son titre, c'est-à-dire une série de phases de 78 tours qui raconte des petites histoires avec Mireille, Jean Nohain, Pils et Tabé. Ici, dans la merveilleuse partie de bridge.
Venez, venez, soyez aimables, venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux, le bridge est adorable. Comment vous n'êtes pas très forte, ça ne fait rien du tout, qu'importe. Si vous gaffez, nous fermerons les
asseyez-vous, vous ne pouvez pas y couper.
C'est moi qui donne.
Allez, coupez.
Coupez.
Pique.
Deux carreaux.
Trois sans atout.
Bon. Dame.
Trois.
Allez. Honneur sur honneur.
Non, mais qu'est-ce que tu fais?
Mon as de pique.
Comment l'as de pique? Comment
l'as de pique?
C'est fou, je ne puis pas admettre. On me coupe quand je suis maître.
Et c'est dans la porte du mort qu'on joue.
Pour ne rien compromettre.
Et puis il existe une règle.
Dans sa longueur, on joue sa faible.
Allons, mademoiselle, mais à quoi pensiez-vous
quand on n'a qu'un tout petit jeu de rien du tout?
On ne demande pas
300 à tout.
Messieurs, vous n'êtes pas aimable. J'étais venu à votre table. Le bridge est un jeu qui me fait horreur. Le bridge est détestable. Et puis d'abord, permettez que je vous explique que pourquoi j'ai joué mon as de pique. C'est que j'ai cru couper la dame de cœur. Et vous n'allez tout de même pas m'avaler pour deux rois et pour un petit valet.
Oh, alors, mademoiselle, je vous en prie.
Consolez-vous, mademoiselle. Nous avions perdu la cervelle. Vous n'aviez pas besoin de faire grand chelem. Allez pour qu'on vous aime. Laissons ces cartes imbéciles.
Laissons ces cartes imbéciles.
Séchez vos cils et vos pupilles.
Je sèche mes cils et mes pupilles.
Quand on a des yeux aussi doux que vous, même avec un tout petit jeu de rien du tout,
on peut demander
400 à tout.
Venez, 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 venez.
Venez, venez, soyez aimables. Venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux. Le bridge est adorable.
Une chanson de Mireille et Jean Nohain, chantée donc avec le concours de Pils et Tabé, ainsi que de Jean Sablon en 1932. Et quelques années plus tard, en 1935, c'est Reynaldo Hahn, grand compositeur qui aime la musique légère et qui écrit sa dernière opérette, trop peu connue, Malvina. Ça se passe pendant la révolution de les Trois Glorieuses de 1830. Et ça ressemble un petit peu dans l'esprit à Ciboulette, mais c'est une œuvre qu'on ne donne malheureusement jamais. On va écouter tout de suite le final, chanté notamment par les deux héros de l'histoire, Jacques Janssen et Lina Dachary.
Mon père, ma mère, ma sœur, pourquoi ce silence de glace?
Ton joint, le veloce, infâme ravisseur, laissez-moi parler seulement, un enlèvement.
Mais c'est charmant!
Ainsi, monsieur, vous enleviez ma fille!
Ça, c'est bon,
elle est gentille! Un enlèvement!
Un enlèvement! Mais c'est charmant! Mais c'est charmant!
J'ai vu Malvina, je l'adore! Pardonnez-moi si j'ai l'esprit hâtif! Je l'enlevais, mais pour le bon motif! Que pourrais-je vous dire encore? Et mon intention, demain, après-demain! Était de vous demander sa main.
Puisque j'épouse Adèle et qu'il doit épouser Malvina, ça ne sort pas de la famille. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut caser d'un fils.
Un enlèvement, je ne donne pas mon consentement.
Oh, ne sois pas impitoyable.
Ma fille est une misérable.
Oh, tu dis ça, toi?
Oui, oui.
Oh, et pourtant,
hein?
C'est ici qu'il y a 20 ans, front rougissant, cœur palpitant, moi, l'innocente jouvencelle, tu m'as jetée en travers de ta selle. Et si le vieux cheval n'était pas revenu de lui-même...
C'était peut-être le même.
C'en était fait de ma vertu. La chose est à peine croyable. Oh, ne sois pas impitoyable. À maman, à papa,
oui,
vous ne nous aviez pas dit ça.
La maman, le papa, ne leur avait jamais dit ça. Il pardonne, Malvina.
Dans mes bras, ma fille.
Oh, quelle journée! Je l'aurais vu, les journées, moi.
Adèle, Arthur, Malvina, lui, mes quatre enfants, je vous inue, je vous unis et je vous bénis après les combats, l'hyménée.
Vous fûtes jeune, et pour subjuguer une femme aimable, autrefois vous avez conjugué un verbe admirable.
De l'histoire, c'est la morale, il a raison, il a raison. De plus belle conjugaison, il n'en est pas quand elle est conjugale.
Et nous, asseyons-nous sur l'herbe, pendant qu'ils conjuguent leur verbe.
Le verbe aimer, le verbe de l'amour, nous le conjuguerons à notre tour.
Je t'aime,
je t'aime,
tu m'aimes,
tu m'aimes,
tu m'aimes,
elle m'aime. Bonheur suprême, dans le septième ciel, nous planons.
Je t'aime,
je t'aime,
tu m'aimes,
tu m'aimes,
tu m'aimes,
elle m'aime. Merveille t'aime, dis un poème, nous nous aimons.
Tous ceux qui sont gentils, tous ces amants sont charmants, ils s'aiment, ils s'aiment la joie autour de vos aimants tous les deux.
Mon bien-aimé,
ma bien-aimée, ce fut par un bon soir de mai que je t'ai fait.
Et pour vous dire que nos cœurs étaient à l'armée,
tout nous disait aimer, aimer.
Allons baiser, unir nos âmes,
enlacés nous surpris le jour.
C'est ainsi que nous nous aimons.
Amour.
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 Aimer, 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 aimer.
Dans le suprême, dans le septième ciel,
l'amour.
Je t'aime,
je t'aime,
tu m'aimes,
tu m'aimes.
Merveilleux
thème, divin poème, nous nous aimons.
Doute cruel, triste pensée, un jour c'est plus tu ne m'aimais.
Moi, cesser de t'aimer, jamais,
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 jamais. Dans mes bras, doucement, merci, aux blondes et anges adorés, jusqu'à la mort, je t'aimerai.
Bien que tout passe, tout lasse, le dieu des constantes amours avait voulu que je t'aimasse toujours,
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 toujours, toujours,
toujours.
Nada Chari, Jacques Janssen, Henri Bédex, Hélène Régely et quelques autres dans ce final de Malvina de Reynaldo Hahn sous la direction de Jean-Paul Créder en 1961.
Thank you.
Et oui, même Albert Roussel, il a un air de fête dans cette quatrième symphonie dirigée ici par Charles Dutoit, une œuvre de 1934, comme Au papa de Maurice Yvain, également un air de fête pour ses retrouvailles d'un père et d'une fille à la fin du deuxième acte.
Ma bouche sourit en prononçant le nom chéri.
Sa bouche sourit en prononçant le nom chéri.
Papa, 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 je vous présente mon papa. Mon cœur fait tigre et mon aigre, car la famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 je veux trouver mon petit papa. Je suis sa fille, c'est mon papa. Je suis la fille de mon papa.
Même à la fourrière, je l'ai repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré.
Il l'a repéré au grain de beauté qu'elle a montré.
Papa, 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 je vous présente son papa. Mon cœur fait tigre et mon œil pille, car la famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 elle a trouvé son petit papa. C'est bien ma fille, je suis son papa. C'est bien la fille, son papa.
Papa, 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 elle nous présente son papa. Son papa dit, il est sur le pied, il est sur le pied, il est sur le pied. Papa, 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 elle a trouvé son petit papa. Elle est sa fille, elle est sur le pied. C'est bien la fille, son papa.
C'est des trucs plus chinopines et que l'on ne voit qu'au ciné. Comme on vous en raconte dans les cafés.
Tu vois café.
Tout ça est bien subtil. Mais comment se fait-il vous soyez reconnu aujourd'hui seulement quand vous vous rencontrez journellement? Faut-il encore répéter que c'est à cause du grain de beauté?
En tout cas, c'est bien curieux. Expliquez-vous mieux.
S'il est dans un endroit imprévu, comment l'avez-vous vu? L'héritière de mon sang ne m'a montré rien d'indécent de ce que peut voir un papa. Le grain de beauté n'est pas en bas, 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 ni au milieu. Comme on le croit, mais il était trop haut pour moi. Je suis petit, mais oui, ça m'interdit, hardi, de voir les femmes, tant pis. Un peu plus haut que leur pomme d'api.
Comme un bébé,
petit,
petit,
petit, pour la cabine,
sur la cabine,
petit,
petit,
ne permet pas, j'en ris,
de
faire le monde,
ça fait chérie.
Mais puis,
c'est
un ennui,
ça
me nuit,
ça oui.
Mais ma fille, merci,
il
est grand de ses
choses, il est petit. Je
veux prospérer, je veux convaincre, je veux le célébrer avec une défaillance. J'offre le cocktail de reconnaissance.
Il est pour le cocktail en restaurant.
Elle pense tout de suite à la ripaille. C'est bien le fruit de mes entrailles. Papa, 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 elle a trouvé son petit papa. C'est bien ma fille, je suis son papa. C'est bien la fille, son papa.
Papa, 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 papa. Elle nous présente son papa.
Son cœur fait vivre,
son cœur fait vivre.
Au Papa, petit chef-d'œuvre bien trop méconnu de Maurice Yvain en 1933 qui referme ce programme spécial année 30. C'était une archive de la radio sous la direction de Jean Doussard. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Mon invité, ce sera Michel Jonas. Ainsi se termine Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Avec à la technique aujourd'hui Frédéric Kiffer, Valentin Bobinet, Cindy Le Grumelec. Réalisation David Travailleur. Vous êtes sur France Musique où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.